That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Bonsoir à vous tous sur et bienvenue sur VOA Afrique. Eric Manila Kiza avec vous, Josèle Morita assure la réalisation de cette édition. Bienvenue encore une fois dans l'Amérique et vous qui explore les similitudes et les différences entre le système de convention des partis politiques américains où les délégués de chaque État se réunissent pour nommer leurs candidats à la présidentielle et les systèmes africains de désignation des candidats. Il est intéressant d'examiner comment les mécanismes de nomination varient d'un pays africain à l'autre en tenant compte de facteurs tels que les influences ethniques, les structures de partis et les systèmes électoraux. Cette édition de l'Amérique et vous vous offre donc une réflexion sur la manière dont ces différents systèmes affectent la représentativité, la démocratie et la stabilité politique dans chaque contexte. Pour décortiquer tout cela, je suis en ligne avec Ahmedo Ould Abdallah, directeur du Centre stratégique pour la sécurité du Sahel-Sahara, ancien fonctionnaire de l'ONU. Monsieur Abdallah, bonsoir.
Bonsoir.
Frédéric Vanvuginyouvila est avec nous, c'est l'ancien vice-président du Burundi. Bonsoir, monsieur Frédéric.
Bonsoir, monsieur Eric.
Nous serons également en ligne avec Athanase Karayenga, consultant indépendant, qui va nous rejoindre tout à l'heure. Je vais commencer avec vous, monsieur Abdallah. Quels sont les principaux défis auxquels sont confrontés les partis politiques africains dans la nomination de leurs candidats à la présidentielle, notamment en comparaison avec le système de convention aux États-Unis?
Merci beaucoup. C'est une question très difficile, intéressante, mais difficile. Je crois que ce problème ne se pose que dans peu de pays, par exemple le Cap-Vert, le Sénégal, le Ghana, le Botswana, l'Afrique du Sud et un ou deux autres. Mais dans le reste du pays, le choix est fait déjà. Le nombre de partis est limité ou bien il n'y a qu'un seul parti et les candidats sont des candidats soit suggérés par le parti au pouvoir, et donc c'est très difficile. Effectivement, il y a le Kenya, on aurait pu ajouter d'autres, et les systèmes sont complètement différents, mais si on veut le développement économique et au moins on travaille pour le pays, comme par exemple en Asie, la Chine ou d'autres. Mais chez nous, en Afrique, c'est complètement différent. Il n'y a pas de commune mesure avec ce qui se passe aux États-Unis, sauf les pays que je vous ai mentionnés.
Monsieur Vanvuginyouvila, quelles sont les systèmes de nomination des candidats à la présidentielle en Afrique? Peuvent-ils tirer des conventions américaines pour améliorer la démocratie interne au sein des partis?
Je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut quand même savoir. C'est la base de cette démocratie américaine. Dès lors que les 13 États se sont mis ensemble pour refuser justement le pouvoir d'origine d'Angleterre pour être indépendants, à partir de ce moment-là, ils ont dit qu'il fallait absolument que tous les hommes qui naissent égaux puissent et s'autodéterminer eux-mêmes. Ça, c'est la base. Deux, ils ont dit, voilà, qu'ils doivent avoir des droits inaliénables, tels que la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Et en Afrique, il y a très peu de pays, justement, qui ont cette aspiration. Évidemment, ils se sont inspirés de la philosophie des Lumières du 17e siècle de l'Europe. Et on n'est pas encore à ce niveau. L'indépendance qu'ils ont eue, c'est une véritable indépendance. Ils se sont dotés d'une constitution, et cette constitution est quelque chose qui est stable. Alors que chez nous, nous avons semblé avoir des indépendances, mais des indépendances qui n'en sont pas une en réalité. Et parce que on voit qu'un chef qui vient, il veut s'éterniser au pouvoir. Et s'il veut s'éterniser au pouvoir, il veut utiliser les autres partis politiques comme des moyens pour accéder au pouvoir. Et il ne veut pas quitter le pouvoir. Et il fait tout pour changer la constitution et l'adapter à ses plans. Et par conséquent, il ne peut pas y avoir une certaine comparaison entre ce qui se fait aux États-Unis et ce qui se fait en Afrique, sauf justement les quelques pays cités par Ould Abdallah.
Mmh. Athanase est déjà avec nous. Athanase, bonsoir.
Bonsoir Eric, bonsoir à vos invités prestigieux.
Merci.
Oui. Merci Athanase.
Oui, Athanase, quels sont selon vous les principaux atouts du système de convention des partis politiques aux États-Unis pour la nomination des candidats à la présidentielle et quelles en sont les principales faiblesses?
Alors, il faut d'abord peut-être remettre dans le contexte historique. Les États-Unis, c'est une nation, c'est un pays qui a 250 ans d'existence. Et quand on le compare à des pays d'Europe, la Suisse qui a 800 ans ou un peu plus, la France qui a 1000 ans, je rappelle ce contexte, cette profondeur historique pour dire que les systèmes qu'on voit aujourd'hui constituent le fruit d'un aboutissement long, compliqué, périlleux, qui a été mis à mal par les guerres. Donc, il ne faut pas se désespérer, il ne faut pas désespérer de l'Afrique. Nous avons une histoire très longue, c'est vrai, mais au niveau de la démocratie, c'est une demi-heure, même pas par rapport à ces grands pays qui sont organisés avec beaucoup, beaucoup de difficultés, encore une fois. C'est pas venu comme ça sur un plateau d'argent. Les États-Unis, j'écoutais Monsieur Mamadou avant. Les États-Unis ne sont pas comparables à l'Afrique, ni au Sénégal, ni à la Tanzanie, ni à l'Afrique du Sud, parce que c'est une autre histoire. C'est un autre rapport de force entre les politiques et les partis politiques. C'est un autre rapport de la population par rapport à la politique. Malgré tout, il y a quelque chose qui est extrêmement périlleux aux États-Unis, comme ça l'est en Afrique. Il y a vraiment une menace d'un retour. Peut-être pas d'un retour, mais en tout cas de l'arrivée d'une dictature à l'africaine. Si M. Trump gagnait, je le verrais bien, les États-Unis basculer dans le système que nous écrivons tous comme désastreux et défaillant. Je le verrais bien comparable au Burundi. On le dira plus tard, mais il reste quand même là une note positive. Il y a des pays comme la Tanzanie qui ont des élections apaisées. C'est vrai que c'est quand même le même parti politique qui gagne tout le temps. C'est pas bon. L'Afrique du Sud, elle est très bousculée. Le Sénégal a donné une très très belle leçon de démocratie maîtrisée, apaisée, même si on a failli la catastrophe. Bref,
le Ghana...
donnons à l'Afrique. Oui.
Le Ghana, c'est un exemple.
Oui, le Ghana, absolument. Oui,
la Namibie.
La Namibie, le Botswana. L'île Maurice. Je ne sais pas si on peut parler des pays arabes. Par contre, l'Égypte, c'est un désastre. L'Algérie, c'est un désastre. La Mauritanie, c'est entre les deux. On ne sait pas dans quel sens ça ira, mais au moins il y a quand même une forme de tolérance. La Tunisie est en train de régresser à vive allure. Donc il faut replacer tout ça dans une histoire coloniale de libération, c'est vrai, de guerre, de génocide. Ce n'est pas évident de construire une démocratie apaisée, inclusive et libre. Du jour au lendemain.
Oui, Athanase, vous analysez les systèmes africains, y a-t-il des aspects du modèle américain qui pourraient être adaptés au contexte africain pour renforcer la démocratie?
Il n'y en a pas. À mon avis, il n'y en a pas pour la bonne raison que le modèle américain s'est fabriqué aux États-Unis sur un modèle plutôt britannique de deux parties stables, de deux parties sur une profondeur historique très importante, qui a des moyens économiques gigantesques, qui a, comment dire, qui est adossé à une idéologie politique qui n'existe pas en Afrique, il ne faut pas se faire des illusions. En Afrique, il n'y a que la tentation à la burundaise de s'installer au pouvoir et puis d'y rester, quoi qu'il arrive, et sans respecter aucune règle de la démocratie, ni de la Constitution, ni aucun accord international, alors que les États-Unis, malgré tout, c'est quand même un pays, que ce soit les démocrates ou les républicains, ils sont tous d'accord pour que la Constitution reste la base de la gestion du pays, même si Trump est en train de bousculer cette Constitution. Mais malgré tout, il y a l'aveu de tous les partis politiques, de deux partis politiques majeurs, et qu'on ne peut pas sortir de la Constitution. Et d'ailleurs, c'est très souvent qu'on dit « Ah, mais l'amendement, le deuxième amendement donne la liberté d'expression sans limite. » Deuxième amendement de la Constitution. Donc,
c'est le premier amendement. C'est le premier amendement. Le deuxième, c'est concerne les armes.
Voilà, exactement. Donc, malgré tout, même le Parti républicain qui est traversé par une tentation totalitaire, il a quand même. Il s'assoit sur une longue histoire d'une Constitution établie, respectée, malgré les défaillances du parti, je ne dirais pas du Parti républicain d'ailleurs, c'est plutôt la branche MAGA qui constitue une menace contre la démocratie américaine.
Oui, il y en a qui disent aussi que le Parti démocrate a viré vers la gauche radicale. Monsieur Mbouguignou-Villa, en quoi le contexte sociopolitique et historique africain rend-il difficile l'adoption de systèmes similaires à celui des conventions américaines et quelles adaptations seraient nécessaires pour un éventuel succès?
Oui. D'abord, le premier problème, c'est justement le départ de la colonisation avec l'absence d'une préparation solide pour s'auto-prendre en charge. Parce que les Blancs qui colonisaient l'Afrique ont été remplacés par des Blancs noirs qui jouent exactement le même rôle et qui comprennent les intérêts de rester au pouvoir et qui ne veulent en aucun cas quitter ce pouvoir. Et ils inventent tous les manèges possibles pour y rester. C'est pour cette raison que la constitution qu'ils inventent, c'est une constitution des fois importée du modèle européen, et alors que justement l'indépendance n'appartient pas à l'élite, l'indépendance appartient à un peuple. Le peuple composé est d'élite et de non-élite, les non-élites sont majoritaires. Et comment sont-ils associés à cette libération d'esprit, à cette autodétermination? Ils ne le sont pas. Et par conséquent, c'est pour cette raison que nous avons des constitutions, d'abord écrites dans des langues étrangères. Et alors que justement, nos pays ont leur propre langue, on devrait avoir des constitutions écrites à notre propre langue et qui doit être absolument la propriété des populations et non pas des élites. C'est pour cette raison qu'il y a deux sphères, la sphère des paysans, la sphère des élites, et les élites essaient d'utiliser cette histoire de démocratie pour manipuler les populations, cette histoire de partis politiques pour manipuler les populations, alors que justement les populations sont des exploités à jamais. Voilà pourquoi on est dans une situation où c'est la peur, c'est le défaitisme qui sont toujours observés dans nos sociétés. Cependant, est-ce que l'on peut peut-être exploiter, nous référer à cette démocratie américaine, aux aspects positifs? Aux aspects positifs de la démocratie américaine, parce que ce n'est pas toujours positif chez vous. Il y a des éléments négatifs et aujourd'hui, l'histoire nous le démontre. Cette division entre les anciens, les traditionalistes, les conservateurs et les modernistes. Et ça veut dire que quelque part, on ne peut pas se fier à cela. Et parce que si les États-Unis avaient compris justement le message de Jefferson, ils ne seraient pas en train de se comporter ainsi. Tout comme chez nous, si on avait compris que le pouvoir appartient à la masse, à la population, on ne se comporterait pas ainsi et on devrait reconnaître justement les valeurs de la personne. Ça veut dire des valeurs inaliénables, les droits inaliénables tels que la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Est-ce que déjà en Afrique, on peut se référer d'abord à cela pour construire notre propre base? Si on s'entendait sur cette base, on pourrait absolument évoluer et aller loin.
Monsieur Abdallah, comment l'influence des structures traditionnelles, ethniques, des chefs de parti et des dynamiques locales impactent-elles le choix des candidats dans des pays comme le Kenya, le Nigeria, il y a d'autres? Existe-t-il des similitudes avec le système américain où les intérêts régionaux jouent également un rôle?
Merci. Non, moi je pense que la discussion est intéressante. Moi, j'insiste pour dire d'abord un rappel que nous avons, le continent en général a été colonisé pendant une soixantaine d'années, de 1900 à 1960. La plupart des pays sont indépendants depuis 60 à 65 ans. Donc il faut éviter toujours le regard de rétroviseur pour justifier les pannes ou les erreurs ou les échecs. Mais ceci étant, je ne dis pas que la démocratie est une fin en soi. Bien sûr, je suis pour la démocratie, pour la liberté, je le serai toujours, mais au moins qu'il y ait un progrès économique. Par exemple, la Chine n'avait pas de démocratie, elle s'est développée. D'après tout ce qu'on me dit, le Rwanda, il y a des élections périodiques, mais il y a un bon développement des infrastructures, de l'économie, et la capitale est considérée par beaucoup de gens comme un modèle de bonne gestion d'une ville. Donc, on ne parle pas de démocratie pour démocratie, mais ce que je veux dire, là où il y a des démocraties, comme les pays que j'ai cités tout à l'heure, et il faut qu'on sache ce que les gens veulent, les dirigeants et les populations. Ou bien on fait un développement économique et on continue, et la démocratie n'est peut-être pas la meilleure voie parce qu'il y a des obstacles, elle est beaucoup pour la transparence. L'Afrique du Sud, on l'a dit, le Cap-Vert, le Botswana, le Sénégal et le Ghana et d'autres pays. Mais l'important aujourd'hui, c'est de renforcer le sentiment d'unité nationale et que les présidents qui n'ont pas fait un effort et qui ont une constitution qui la respecte. Moi, je pense que la priorité en Afrique, les pays concernés où les présidents où les systèmes, en tout cas, ne sont pas productifs, il faut que les élections soient aussi transparentes que possible, qu'elles soient ouvertes, et surtout qu'à la fin du mandat officiel, les présidents cèdent la place sans penser à leur groupe régional, religieux ou autre. Je pense, et surtout, l'opinion publique africaine a fondamentalement changé. Les réseaux sociaux ont tout bouleversé. On ne peut plus diriger comme jusqu'aux années 2000-2010. Les coins les plus reculés d'Afrique sont connectés au reste du monde. Ils demandent la transparence, ils demandent de meilleures gestions. Et les États-Unis, pendant la guerre froide, étaient un modèle. Je pense que ce pays reste un modèle d'où l'afflux massif de jeunes Africains émigrants aux États-Unis. Mmh. Au péril de leur vie. Ils émigrent aussi en Europe. Ils émigrent vers les démocraties.
Oui.
Même si c'est tout. Et donc, il faut que nous voyons tout dans son ensemble. Même s'il y a une migration interne dans le continent, reste toujours difficile. Les jeunes restent exposés. Et ce qu'il faut en Afrique, donc, c'est ou une vraie démocratie pour qu'il y ait une alternance, ou un développement économique des infrastructures, de l'éducation et des efforts d'intégration nationale. qui dépassent les clans religieux, géographiques ou ethniques. Et ça, on le voit malheureusement que dans très peu de pays.
Ouais.
Dans les démocraties que j'ai citées, ou un pays qui économiquement...
Oui, on s'approche vers la fin de cette émission. Et, j'ai encore une question pour tout le monde. Monsieur Mavuginyuvira, vous aurez une minute pour cette question. Selon vous, quels sont les éléments essentiels dans un système de nomination de candidats qui assurerait non seulement la représentativité, mais aussi la survie et l'évolution des partis politiques, même en cas de défaite électorale?
D'abord, la nomination comme responsable d'un pays. Il y a des partis politiques qui doivent, les responsables des pays se rencontrent et désignent un président. Ça, c'est d'un côté. Mais la question qui se pose, est-ce que ce président vient pour le pays ou vient pour le parti? Voilà la question de fond. Aux États-Unis, quand quelqu'un vient être président de la République, ce n'est pas pour être gérer le pays pour son parti, c'est gérer le pays pour les Américains. Mais ici, chez nous, quand on devient président de la République, c'est pour servir les intérêts de vos militants, les intérêts de vos connaissances. Alors, ça devient justement une catastrophe. Ça veut dire que vous divisez le pays. Il y en a qui sont pour vous, il y en a qui sont contre vous. Et jusqu'à dire des appellations, on dit, écoutez, toi tu es du pays, toi tu es je ne sais pas quoi. Donc ça veut dire qu'il y a des citoyens de seconde zone et des citoyens de première zone. Et par conséquent, ça constitue des divisions qui sont là. Maintenant, qu'est-ce que l'on peut faire? Ça veut dire qu'il faut réorganiser le pays, tout simplement. Il faut réorganiser le parti politique. Et pour que les partis politiques ne soient pas toujours des partis politiques d'antan, mais des partis politiques modernes qui s'occupent des questions modernes, qui s'occupent essentiellement de l'avenir des citoyens.
Oui. Monsieur Abdallah, pourquoi observe-t-on souvent la disparition des partis politiques en Afrique après une défaite électorale et que révèle cela sur la stabilité et la résilience des systèmes politiques africains? En une minute.
Merci. Écoutez, je me souviens, j'ai servi à un moment donné au Burundi dans les années. Et beaucoup de partis politiques, certains les appelaient les partis, je ne sais pas, cabines. Tous les militants pouvaient tenir dans une cabine politique. Ceci est vrai dans beaucoup de nos pays. Mais en même temps, il y a de nombreux pays où il y a des partis structurés, des pays que j'ai cités tout à l'heure, qui reste, soit le parti unique structuré, que ce soit les autres, et ces partis tiennent, comme on vient de le voir au Sénégal avec l'alternance, comme on le voit dans beaucoup de pays, les élections à venir au Ghana par exemple, le parti du président, l'opposition. Donc, ce qui est important, à mon avis, en Afrique, ce n'est pas seulement l'intérêt d'avoir plus de liberté et de démocratie, mais si ça n'existe pas, au moins qu'il y ait un travail sur le terrain pour rendre la vie plus aisée pour les populations, donc minimum de liberté, de soins, d'économie.
Merci. Athanase, comment évaluez-vous la capacité des partis politiques africains à se renouveler après une défaite comparée à la résilience des partis américains qui continuent d'exister même après des pertes électorales significatives? En moins d'une minute.
Parce que les partis des États-Unis sont constitués par la volonté des membres, des adhérents qui cotisent. On le voit bien, je suis au quotidien les conventions, la mobilisation populaire. Aux États-Unis, les élections appartiennent au peuple et aux grands groupes industriels, c'est vrai aussi, mais malgré tout, c'est le peuple qui est en train de se mobiliser énormément. Et une chose qui est, à mon avis, qu'il faut quand même signaler, les États-Unis, il y a un programme de haine qui est le parti de Donald Trump. Et moi, j'étais extrêmement impressionné par les valeurs morales, la bonté la générosité, l'écoute.
Merci, Atanas. Malheureusement, il ne reste plus de temps pour continuer la discussion. Merci à Amédou Ould Abdallah, Frédéric Mambouniou Vira, Atanas Karayenga, Eric Manilakis a été avec vous au micro. Joseph Morissin a assuré la réalisation de cette émission. Je vous souhaite une excellente